Bonjour. Effectivement, nous avons trois invités, à savoir Marie Attard, Johan Brecht, Georges Besson, respectivement, attaché de presse, metteur en scène, comédien de la compagnie en 01, et c'est pour leur toute nouvelle création, La mort de Tintilige. Ça sera présenté au théâtre Sorano du 7 au 9, dans le cadre du festival, c'est la seconde édition du festival Supernova, et c'est cette compagnie qui ouvre le bal avec ce spectacle de Maurice Maeterlinck. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
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 Juste pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, Johan Brecht, le petit clin d'œil du nom de votre compagnie. Puisqu'il y a une petite histoire, enfin ça veut dire quelque chose.
Bien sûr. Ouais. L'an 01, c'est suite au visionnage du documentaire d'Alain Doyon, qui s'appelle L'an 01, qu'il a réalisé avec GB, Alain René et Rouche, et qui est à la base une bande dessinée de GB, qui est une sorte d'utopie sociale où on arrête tout ce qui ne fonctionne pas, puisque c'est un monde en crise dans un film post-68 art, écrit en 72. Où du coup on arrête toutes les industries, on se rencontre tous dans la rue pour voir comment on pourrait refaire un monde, mais un monde qui marche cette fois-ci. Donc on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste, c'est la réclame du film et c'est un peu notre leitmotiv à la compagnie.
Mm-hmm. D'accord. Donc là c'est la compagnie a été créée en 2015, c'est votre troisième création si j'ai bien suivi.
Tout à fait, c'est la troisième création de la compagnie. Ouais. Mm-hmm. Ouais. On a fait du coup une part, une en 2015, une en 2016 et une en 2017 cette année.
Vous pouvez juste les évoquer en deux mots.
La première s'appelle ADN, acide désoxyribonucléique. C'est une pièce de Dennis Kelly, un auteur anglais contemporain qui a à peu près entre 40 et 50 ans, qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle In Your Face Theater, qui est un théâtre coup de poing, dont les précurseurs sont Sarah Kane, Edouard Bond. On a beaucoup d'auteurs aussi aujourd'hui croates ou serbes dans cette mouvance-là. Mark Ravenhill aussi, un autre auteur anglais. Et Dennis Kelly, à travers cette pièce, ADN, c'est le meurtre d'un adolescent par ses camarades de classe au cours d'une soirée où il s'amuse. Et sans faire exprès, en jouant, il le tue pour s'amuser. Et toute la pièce se passe après le drame. Du coup, comment essayer de vivre avec ça ou en réparant, en recollant certains morceaux. La deuxième pièce, XY et moi, c'est cette fois-ci juste des individus, un homme et une femme qui viennent faire une conférence sur l'économie dans notre pays qui est en crise depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc du coup, eux, ils ont la solution, parce qu'ils sont envoyés du ministère, c'est ce que les gens pensent, parce qu'on joue que hors des théâtres. Et dans ce spectacle, du coup, on présente une solution pour réduire l'économie en séparant les hommes et les femmes, puisque les hommes et les femmes, en les mettant ensemble, ils se stressent les uns les autres. Tandis que si on les sépare, on peut économiser ce stress et donc gagner de l'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent à la sécurité sociale chaque année. Et donc du coup, on propose des constructions de villes non mixtes que les gens nous aident à créer, on demande au public de nous aider à les créer. Et à la fin, ça part très très loin dans un discours très très extrémiste, et après on laisse parler les gens 50 minutes sur leurs conditions, qu'est-ce qu'eux pensent de ça aujourd'hui, d'accord, de l'égalité femmes-hommes, de l'identité masculine et féminine, qu'est-ce que ça veut dire,
c'est d'actualité pour différentes raisons si
ouais en plus, je trouve que oui. Et du coup on en arrive maintenant à la mort de Tintagile, qui est encore un autre sacrifice,
approche,
après celle d'ADN, après celle de sa masculinité ou féminité, c'est celle d'un jeune prince dans la mort de Tintagile, donc qui s'appelle Tintagile, et qui a annoncé donc comme mort, qui va mourir dès le début de la pièce, puisque c'est le titre, et comment ses sœurs, comment sa famille essayent ou pas de le sauver, d'en faire quelque chose de cet enfant, donc de se devenir d'un futur, comment les anciennes générations s'emparent du futur, comment elles permettent au futur d'exister ou de ne pas exister.
Vous dites dans le dossier, j'ai lu ce que vous dites. J'essaie d'atteindre petit à petit un équilibre et chacune de mes réalisations me rapproche de ce que je suis. Je crée et me crée. Vous pouvez expliciter. Et puis le fait, en lisant le dossier aussi, on a l'impression que vraiment cette création est d'une importance capitale pour vous. C'est quelque chose de viscéral.
Disons que je ne pense pas être arrivé au bout de quelque chose. En étant adulte, comme souvent on pense, c'est adulte, il y a quelque chose
d'advenir. Vous êtes un jeune adulte.
Mais je pense qu'on continue à se construire. Enfin, j'espère en tout cas pour chaque personne, tout le long de sa vie et jusqu'à sa mort, au moins peut-être au-delà, je ne sais pas. Et dans cette construction, je l'ai fait maintenant à ma manière avec mes propres outils qui ne sont plus mes parents, qui sont la création théâtrale qui est la scène et qui me permet, à travers des textes, à travers des rencontres avec des équipes et avec des gens avec lesquels je travaille, de continuer à me construire, à me forger une opinion qui change d'année en année. Ce spectacle, comme les précédents, participe à ça. Les textes sont choisis en fonction de ça, parce que c'est des choses qui nous habitent profondément, qui nous animent et qui qui font écho
interpellent, qui vous questionnent.
Tout à fait. Et se construire par le théâtre, c'est ça. Mm-hmm.
Et le choix de cet auteur et de cette pièce, oui, vous venez un peu de le dire, puisque c'est quelque chose, il y a cette histoire de sacrifice de ce jeune homme, enfin de la place de l'individu au sein d'une société aussi.
Je pense que du coup, tout est dit. Enfin, après, on a choisi une autre langue, c'est comment jouer. Oui, on parle de se construire, et c'est ça, il y a des gens, enfin, entre le premier spectacle, ADN, et celui-ci, qui peuvent ne pas s'y retrouver, puisque l'identité n'est pas du tout la même.
Oui, bien sûr. Oui.
Et je ne cherche pas, je pense, à insuffler dans nos spectacles, dans mes spectacles, une identité, mon identité, mais à faire un instantané. ADN était, en 2014, quand on l'a créé, ce que j'étais à ce moment-là.
Ouais.
L'énergie et l'urgence, les questions, enfin... la rage dans laquelle j'étais, c'est pour ça qu'il y a autant de néons de musique électronique, ce genre de choses. Et Tintagile est quelque chose de beaucoup plus calme posé aujourd'hui, parce que ma vie avec ADN m'a amené à d'autres choses.
Vous avez grandi, entre guillemets.
Et du coup, Tintagile est à un autre endroit, l'endroit où je suis aujourd'hui, qui ne sera pas celui de demain.
Oui, bien sûr. Mais ce texte, comment dire, est empreint de poésie, de choses relatives, passionnelles, enfin de...
Ce qui m'a semblé intéressant,
c'est gens extrêmes dans leur conviction, dans leur façon d'être, les deux sœurs là qui veulent protéger ce jeune frère qui est de retour. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe.
Non, tout à fait. Dans ADN, on avait un fait divers, donc une situation très concrète. On partait de la rue d'aujourd'hui et de ce qu'on lit dans les journaux tous les jours, quoi. Et là, ce qui m'a plu, après, d'aller expérimenter avec Tintagile, et je pense qu'après, j'en aurai fini avec le sacrifice et que je passerai une autre thématique, mais c'était comment on peut... quitter le monde concret, parce qu'on est vraiment dans l'ordre du conte ou de la fable presque, et revenir à nos monstres intérieurs, quoi.
Ouais.
Que l'ennemi soit plus un groupe, quelqu'un d'autre, comme on pointe toujours l'extérieur,
bien
l'autre
sûr,
comme
l'étranger,
ennemi,
entre guillemets.
Mais comment nous-mêmes, enfin, ou comment au sein de nous-mêmes, la famille, hein, qui
bien
sont
sûr,
cette,
ouais.
le nous-mêmes, comment la famille peut être ce propre danger, cette propre mise à mort, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus abstrait. Qui puisse vraiment faire écho où il y a presque rien. Enfin, notre décor est noir, les comédiens sont à peine visibles, enfin, tout est extrêmement tendu et mystérieux et fondu, exactement. Mmh. Et c'est comment là-dedans, nous-mêmes, on se retrouve du coup projeté et embarqué avec Tintagile jusque.
Non, parce que Tintagile, il était en voyage, il retourne dans son lieu d'origine.
C'est ça.
Où il y a ses deux sœurs, il y a serviteurs, et il y a cette reine invisible qui veut le capturer, on peut dire comme ça, en fait, qui veut le dévorer.
Oui, tout à fait. Le titre complet de la pièce, c'est La mort de Tintagile, ou La reine invisible qui règne en nous-mêmes.
Dont lui, la...
Cette reine qui...
qui a l'air...
qui est propre à chacun. Je ne veux pas... en parler ou la nommer, puisque
oui,
ça serait la définir.
Oui, bien sûr.
Mais
oui.
Cette reine, elle est existentielle, elle a existé pour moi dans ma vie, et je pense que un futur abdiqué ou impossible ou empêché, ça peut parler à n'importe qui, et on a tous des raisons d'avoir renoncé à certains futurs.
Et donc, dans ce texte, l'auteur, c'était ces thématiques de prédiction, de parler de la vie, de la mort, de l'amour, puis de la nature aussi, c'était ses thématiques préférées, si je puis dire. Mais l'histoire de la vie, de la mort et de l'amour, bon, ça concerne tout le monde, mais ça renvoie aussi au théâtre grec antique. Il y a de sacrées correspondances, l'histoire du sacrifice, puis le nœud familial, ce nœud qui peut être étouffant, c'est le cas de le dire.
Oui,
il y a tout un travail comme ça que vous établissez, comme semble-t-il, avec le théâtre antique, tout en étant dans le contemporain.
Oui, tout à fait. D'où le fait de partir d'ADN et d'arriver jusqu'à Maeterlinck avec cette pièce, même si on est 100, 150 ans plus tôt. Mais on quitte le personnage dans ADN qui va être plastique, qui va être physique, où on travaille sur le costume, on travaille sur des couleurs, des trucs clinquants, comme aujourd'hui on se présente dans la rue, quoi, qui est notre façade, notre être extérieur
oui,
au
voilà,
monde, quoi.
Oui, voilà.
Et là, dans chez Maeterlinck, on est dans l'être intérieur au monde, quoi.
Oui.
Enfin, dans l'âme et dans le mouvement de l'âme directement. Et
oui, dans le cachet, le plus profond.
Ouais,
le...
Dans son essai, Le trésor des humbles, où comment on pourrait être avec quelqu'un qu'on aime et ne pas dire je t'aime, mais quand le silence qu'il y a entre les deux êtres, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus fort qu'en disant je t'aime, qu'il y a d'autres choses qui se passent entre les êtres par le regard, par le toucher, par la température, des corps, des choses, et d'essayer d'éprouver, de se nettoyer un peu. On travaille beaucoup sur le noir, pourquoi ? Parce que moi, pendant la création, j'ai été voir Soulages et ça m'a beaucoup marqué.
Vous avez
et
été voir à Rodez,
à Montpellier, encore à Rodez, encore à Rodez.
Décidément.
Et ça permet d'avoir beaucoup de noir, de demander de se nettoyer les yeux. Quand on se retrouve dans une autre salle du musée avec des tableaux pleins de couleurs, ça paraît énorme tout
bien
d'un
sûr,
coup. Quoi.
Ouais.
Et comment on peut se pacifier ? Aujourd'hui, tout est extrêmement... enfin, c'est mon avis, mon ressenti, mais tout extrêmement rapide, extrêmement tendu. Oui, quoi. Il faut tout de suite répondre au téléphone,
flash,
au mail,
ça,
en permanence, à tout. On est toujours sursollicité. Il faut vite faire une autre création et vite monter des dossiers de production et vite faire les choses tout le temps avec une sorte de pression. Mais je reviens à la réclame au début de ce que je disais. Si on arrêtait tout là 2 secondes, mm-hmm. qu'on se posait, qu'on réfléchissait réellement pour voir ce qu'on a envie de faire.
Voilà, ouais. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui importe pour vous à un moment donné aujourd'hui, enfin 2017 D'accord. Par rapport à l'histoire de monter la production, enfin de trouver les fonds nécessaires aussi, vous voulez en parler, Marie? Puisque j'imagine que vous vous occupez de cela aussi, entre autres.
Oui, oui, bah oui, je m'occupe de ça avec Johan aussi, avec toute l'équipe. Et en fait, on a un partenaire solide qui a été le Théâtre Sorano, mm-hmm. qui depuis le début nous accueille et puis aussi qui nous ont coproduit. Mm-hmm. Donc ils nous ont donné les moyens et financiers et humains en nous accueillant mm-hmm. dans des résidences.
En résidence, ouais.
Voilà, on a aussi la MJC Rodez qui nous suit, où on est aussi allé en résidence en juillet, où on est allé visiter le musée Soulages, mm-hmm. comme disait Johan. Et on a eu la chance aussi d'être accueilli au Paris, à Tarbes.
Oui.
Et au Paris.
Ah, c'est Paris. Ah, pardon, excusez-moi.
C'est pas grave.
Désolée.
On a été là-bas pendant un mois où ils ont un très beau outil pour créer avec des gens qui nous ont très bien accueillis. Et on a pu déjà faire 6 représentations de la mort de Tintagiles en septembre là-bas mm-hmm. avant de venir ici à Toulouse. Mm-hmm. Voilà. Et puis après, on est une jeune compagnie. Nous,
on
vient de fêter nos 2 ans. Et on a aussi la chance d'être quand même soutenus par la région, par la DRAC, par la mairie, par plein d'organismes qui nous aident énormément. Mmh.
Ouais. Et est-ce que le fait que vous soyez soutenue aussi comme ça, puisque vous êtes tout jeune, la compagnie est toute jeune, elle a 2 ans, mmh. c'est aussi le fait que ce soit des choix pertinents qui justement comme ça sont, qui vous tiennent à cœur, enfin qui sont importants pour vous, et donc c'est toujours plus facile de défendre entre guillemets quelque chose d'important, quelque chose comme ça de viscéral, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que ça participe aussi du fait que comme ça vous ayez pu être accueilli à Tarbes, maintenant au Sorano? Bon, le Sorano, il y a un compagnonnage, mais en fait aussi comme ça le fait que vous êtes...
La pertinence des textes, je ne sais pas, ce sont eux d'en juger, mais s'ils nous accueillent, je pense qu'ils doivent s'y retrouver. Après, c'est 10 ans de travail, d'acharnement et de rencontres mm-hmm. qui ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Le théâtre à Tarbes, le Paris, a vu ma première mise en scène hors compagnie avant, Les Lueurs de la Rue Cuvier, puis du coup, mm-hmm. a revu ADN. Puis
d'accord. Il y a aussi un compagnonnage avec eux.
Ouais, ce sont mm-hmm. des rencontres. Les gens avec lesquels on travaille sont peu des gens qu'on consomme rapidement, sont des gens avec lesquels on sait entretenir mm-hmm. une relation sur
d'accord.
le long terme et,
mm-hmm.
et des gens de confiance
pérenne,
avec qui on
oui,
se
d'accord.
retrouve et avec qui on peut parler autant de budget prévisionnel que mm-hmm. d'artistiquement, qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire quoi.
Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Georges Bézan, que nous n'avons pas entendu, vous êtes un des comédiens de ce
oui.
spectacle. Vous pouvez me dire quel rôle vous jouez, s'il vous plaît?
Oui, je joue le rôle d'Agloval, qui est le vieux monsieur, le vieux guerrier. De cette famille, donc. Mmh. Voilà.
Vous connaissez les secrets, enfin, le père, éventuellement?
Les secrets d'Agloval? Je les cherche encore, quoi, parce qu'après avoir essayé de les trouver avec Johan et les collègues comédiens dans les résidences en Rodez, et puis la première sortie, après résidence au théâtre Le Paris.
Mmh. Oui, c'est moi qui m'étais trompée,
donc,
excusez-moi.
Non, c'est pas grave. Non, mais le Paris, ils font des paris sur des... metteur en scène,
de jeunes metteurs en scène, oui.
Avant de jouer ce spectacle, donc 7, 8 et 9 la semaine prochaine, on va retravailler. Et puis je vais réinterroger les secrets de ce vieux monsieur, aux limites, du précipice, au bord de la mort. Est-il un passeur? Est-il un embaumeur? Est-il un facilitateur? N'empêche qu'il reste humain, quoi. Mm-hmm. Avec toute la souffrance...
La complexité.
Qui peut accompagner ces derniers instants, mm-hmm. ces derniers souffles, et avec toutes les tensions familiales qu'il y a autour, mm-hmm. puisqu'il n'y a pas que Tintagiles, il y a aussi mm-hmm. les deux sœurs de Tintagiles,
oui.
et puis il y a ce monstre que l'on nomme, mais que l'on ne voit pas. Et comme disait Yvonne tout à l'heure, le monstre, la reine...
Invisible.
Je pense qu'elle est à l'intérieur de nous, quoi.
Mm-hmm. Chacun a la sienne, quoi.
Voilà.
Mm-hmm. Merci.
Je veux pas dire qu'il n'y a que des monstres
à
l'intérieur de nous. Mais c'est le texte de Maternin qui interroge l'histoire de Tintagiles mm-hmm. interroge aussi cette affaire-là. Profondément et intimement chez chacun des acteurs qui... Je ne sais pas si on interprète, je ne sais pas si on incarne, mm-hmm. Mais en tout cas, c'est là qu'il faut aller chercher, quoi. Mmh. Vous avez employé un mot très important, c'est le secret, quoi, mmh. de chaque personnage. Malgré tout, il faut les aimer. Mmh. C'est pas des salauds. Mmh. Ils sont pas bons, ils sont pas meilleurs que nous.
Ils sont ceux qui sont. Avec leur histoire.
Voilà, et puis je pense que l'écriture de Materlinck et le parti pris de mise en scène de Johan mmh. fait que ceux qui viendront écouter mmh. et voir peuvent projeter... Ben, leur histoire personnelle,
s'y
cette
retrouver.
Affaire. On n'impose rien. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Materlinck n'est pas du genre à vouloir convoquer une vraie histoire. Mm-hmm. Et surtout pas raconter une belle histoire.
Mm-hmm. Oui, il questionne, il propose.
Et en espérant rebondir chez chacun d'entre nous. Quoi. Mm-hmm. Je ne sais pas où ça va, où ça ricoche. C'est un peu livré comme ça. Mm-hmm. Et ce que je remarque chez Johan, ce que j'ai déjà remarqué, c'est la deuxième fois qu'il me convoque pour travailler mm-hmm. avec lui. En tout cas, sur ce projet-là, c'est que se pose pour la compagnie de l'an 01, la rencontre aussi mm-hmm. avec le public, et déplacer un peu les lignes. Mm-hmm. Comment, avec cet art vivant qui est le théâtre, mais ce n'est pas que du théâtre, on peut déplacer et provoquer une rencontre avec le public. D'autres ont essayé, mmh. Mmh. bien sûr, c'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est aussi présent dans ce projet-là, quoi. Ça va au-delà du spectacle. Mmh. Enfin, en tout cas, ça, c'est un désir fort que l'on a ressenti tout le temps chez le parti pris de mise en scène mmh. et du traitement, entre guillemets, mmh. de la mort de Tintagiles et de Monsieur Materlinck. Voilà.
D'accord.
Merci. Avec plaisir.
Pour en revenir au choix de mise en scène, d'une part, vous faites appel à différentes disciplines artistiques parce que c'était nécessaire pour vous, c'était comme ça que vous pouviez donner le rendu le plus juste, enfin qui à vous vous paraît le plus juste de cette histoire, de rentrer dans toutes les méandres de cette histoire qui est quand même assez, oui, un peu âpre si on peut dire. Et où il y a aussi toujours, enfin j'ai l'impression de la beauté, mais aussi de la, bon, des choses moins agréable, des sentiments moins nobles, si on peut dire, dont vous faites appel comme ça à différentes disciplines artistiques. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Et aussi le fait que vous, tout à l'heure hors micro, vous m'avez parlé de déplacer, le fait d'abolir les frontières entre le vivant et les morts, entre les spectateurs et les acteurs. Est-ce que vous pouvez parler de tout cela, comme ça, de ce déplacement, de ce léger déplacement, de ce flottement, pourrait-on dire?
Bien sûr.
Tout en légèreté, ouais, je le ressens comme ça.
Je vais répondre à vos deux questions et juste avant de terminer aussi sur la parenthèse du monstre, parce que je pense qu'il y a quelque chose par rapport à tout ce que vous dites, que le fait que ça puisse être âpre, le fait qu'il y ait le mot mort dans le titre de la pièce, le fait qu'on parle de monstre et tout, mais... Et
c'est
que,
un jeune homme qui...
Ouais, mais que justement c'est pour dédramatiser,
oui,
et de même qu'avec n'importe quelle chose, quand il se passe un événement grave, on, tout d'un coup on place quelqu'un, on fait de l'iconographie négative avec des monstres qui pourraient commettre tel ou tel acte, telle ou telle chose dans notre monde, mais ce sont des gens comme nous, ce sont des gens d'entre nous, n'importe qui d'entre nous peut être un monstre, et un monstre est humain, et il ne faut pas le détacher de l'humanité, mais bien le renvoyer dans notre humanité, le monstre.
Oui, ça fait partie de
questionner l'humanité,
notre
sinon,
essence d'être. Quoi. Enfin,
d'être sinon, humain. On questionne les monstres comme si on les regardait dans une cage, comme si ce n'était pas nous, qu'on était les gens bien, et alors qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de dépréciation, et ce n'est pas dramatique, c'est juste se questionner sur notre humanité, sur quel sens et quel chemin on lui donne demain. Ouais. Mmh. Sur vos questions par rapport aux différentes disciplines convoquées, j'essaye petit à petit, hein, parce que je suis encore petit, mais de me nettoyer, de m'assagir. Et dans ADN, voilà, comme je vous disais, il y a 10 000 effets, lumière, ouais, musique, ça part dans tous les sens.
En plus, boum.
Ouais, ça part dans tous les sens. En même temps, ça plaisait, en même temps, ça m'a plu. Hyper jouissif. Mais maintenant, j'aimerais arriver à un autre plaisir, qui est celui de vous savez, si on s'allonge la nuit dans un champ et qu'on regarde longtemps le ciel, on voit de plus en plus d'étoiles, quoi, grâce à la persistance rétinienne et à ce qui apparaît autour du champ de vision.
Ça suppose la contemplation, prendre le temps.
Ouais, exactement. Et donc du coup, avec ce spectacle où du coup le texte en lecture ne fait que 30 minutes finalement, on a beaucoup moins de texte déjà, donc de mots, que dans ADN. La musique n'est plus de la musique pour habiller, mais elle est une... comment dire, elle est pour donner corps à l'espace.
C'est un habillage sonore.
Comment densifier l'espace qu'il y a entre les personnages, l'espace qu'il y a autour des personnages et des spectateurs même, pour créer une atmosphère, une bulle commune. Et
vous avez fait appel à Benoît Boris pour ça ?
Exactement, vous le connaissez ?
Oui.
Ouais.
Mais il est, comment dire, c'est un ancien de Canal Sud.
Ah mais oui, il m'a dit tout à l'heure qu'il avait commencé ici quand il venait.
Il y a très très longtemps.
Ouais, c'est ça,
et
exactement.
Puis, bon, je le connais aussi pour ce qu'il fait sur Arte, d'accord, sur France Culture, ce qu'il avait fait aussi à la CAF Poésie. Enfin ouais, voilà, je connais un peu la façon dont.
Oui, il est fabuleux. Enfin, on s'est rencontré sur ce projet, je ne le connaissais pas avant, et c'est quelqu'un de génial avec qui on va encore continuer à travailler longtemps, je crois.
Non, il a d'habiller les sons, en fait.
Mais du coup, on questionne chaque discipline qu'on engage, que ce soit même l'acteur, que ce soit parce qu'il n'est pas au centre du plateau, l'acteur,
oui,
parce qu'il n'y a plus de plateau, puisqu'on ne joue plus sur le plateau.
Oui, vous avez,
et la lumière, c'est pareil. La lumière, elle sert à quoi ? Elle sert à faire du noir, en fait. Mm-hmm. Le décor, il sert à quoi ? Il sert à faire du noir. C'est-à-dire qu'on a construit un décor pas pour qu'il se voit, mais pour qu'il se voit pas.
D'accord.
On a fait la lumière pourquoi ? Pour ne pas voir certaines choses, pour faire apparaître certaines choses. Donc
non, c'est pour faire deviner plutôt, pour faire approcher.
Et puis pour essayer de. Parce que c'est vrai qu'un spectacle, tout d'un coup, on peut mettre de la musique, de la danse, du jeu, du truc, 10 000 arts différents.
Bien
et
sûr.
Comment à 20. Non, pardon, 30 ans. À 30 ans. Comment on pourrait maîtriser tous les arts et les connaître et les comprendre,
ouais.
Enfin, peut-être qu'il faut déjà étudier juste une ampoule, jusqu'où elle peut aller, quel est son potentiel.
Qu'est-ce qu'elle
un
peut
mot,
donner.
Quel est son potentiel, une phrase musicale,
hein,
et poser. Il n'y a peut-être pas besoin de 10 000 éléments, mais de calmer ces éléments-là et de les coordonner pour créer une cohérence. Donc,
étudier dans tous les possibles pour voir. Comment vous pouvez les assembler,
la transversalité quoi, entre toutes ces disciplines, comment elles peuvent servir une chose quoi. Même les costumes sur lesquels on a travaillé, comment ils vont dans le même sens que le son, que la corporalité de l'acteur, comment on essaye d'arriver à un endroit et de nettoyer, d'arriver à l'essentiel, de ne pas mettre des effets mais d'enlever. On avait tellement d'idées au début aussi de cette pièce où on s'est échangé nos idées, et là maintenant on enlève pour regarder, voir qu'est-ce qu'on garde réellement.
C'est une
épure
donc, d'une certaine manière.
Ouais, beaucoup plus. Pour voir qu'est-ce qui du coup du noir va poindre comme lumière à travers le tableau de Soulages. Et votre deuxième question qui était...
C'était le rapport public-comédien.
Mais ça c'est lié, je pense, à notre démarche de compagnie depuis XY et moi, c'est post-ADN et puis sur ce spectacle et tout, c'est que je pense que l'acte théâtral est un endroit donné à un moment donné, mais qu'il est un prétexte à... Enfin, si je me pose la question, qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que le théâtre ? C'est se rencontrer, je pense. Contrairement à d'autres choses qu'on consomme tout seul chez
bien
soi,
sûr,
comme la nourriture, les films qu'on se fait livrer, tout ça,
tout,
partout.
Oui.
Et le théâtre, qu'est-ce qu'il permet ? C'est de rencontrer, en fait, de rencontrer d'autres gens.
Un endroit bien précis,
en train de suer, ou autour de soi, en train de frissonner. Mais c'est de se retrouver, de retrouver de la chaleur humaine et l'intelligence humaine mélangée, une multiplication de réseaux, j'espère, si les théâtres ont des réseaux différents, et de pouvoir être à plusieurs. Et donc du coup, bien sûr, il y a l'acte théâtral sur le plateau, hors plateau, peu importe, mais il y a ce qu'il y a avant et après, comment on accueille les spectateurs,
bien
comment
sûr.
Les spectateurs ressortent, comment on les rencontre au-delà de l'œuvre. L'œuvre, on la présente pour s'amuser ensemble. À un moment donné, se faire peur, c'est prouvé. Mais après, comment on s'approche et comment on s'écoute.
Comment tout cela s'articule-t-il
Et comment du coup l'acteur qui... là, j'apprends rien, qui n'est rien d'autre qu'un humain, quitte le public pour se mettre face à le théâtre. C'est le lieu d'où on voit. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un se met face aux gens, il y a théâtre. Et comment après retourne dans l'humain ou disparaît, puisque le personnage n'est rien d'autre qu'un fantasme. Pour moi, je pense, ne doit jamais être une réponse ou un lieu de résolution pour les spectateurs. Ce sont à eux de repartir et de trouver réponse en vivant et en actant. L'acteur n'est qu'un réactant. Il sert à réactiver, je pense. Quand je vais au théâtre en tant que spectateur, je suis réactivé par certains spectacles, et en sortant je me dis ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aimer comme ça, j'ai envie de me disputer comme ça, j'ai envie d'être aussi fantasque et baroque dans mes réactions, mes comportements, j'ai envie de...
C'est un passeur d'une certaine manière, le comédien ou l'acteur ou je sais pas comment...
L'acte théâtral total, du coup tous les artistes du plateau.
Vous voulez réagir, vous qui jouez dans
juste rajouter que je crois qu'on convoque le public à un temps de silence, quoi, et d'écoute.
Vous diriez jusque de recueillement, au bon sens du terme.
Recueillement. Sans mettre de connotation
chrétienne. Non, mais c'était pas, c'était bien pour ça que je précise.
Voilà, juste un temps de se remettre dans le temps présent, d'écoute, et puis...
De se retrouver
et d'éprouver
aussi.
Le silence, quoi. C'est vrai que le théâtre est un lieu où les gens, sans se connaître, s'assoient les uns à côté des autres sans se connaître,
Pour participer à une aventure d'un soir, si on peut dire, en vrai.
Voilà, et elle durera qu'un soir. Et ce soir-là sera différent de celui qui s'est passé avant ou du lendemain. Voilà, en vrai, c'est une convocation un petit peu au silence. Mais pas que.
Oui, d'accord, mais c'est une belle définition. Marie, vous qui avez aussi un œil, puisque vous assistez au, comment dire, depuis le début, vous pouvez donner votre point de vue, ça m'intéresse aussi.
Moi, je trouve que c'est une création très immersive, en fait, dans laquelle on est plongé par voilà, le son qui nous entoure complètement. Parce que voilà, on a un dispositif sonore tout autour de nous, par les comédiens comme ça, qui vont parfois nous frôler, apparaître, disparaître. Et ouais, on n'est pas comme quand parfois on va au théâtre et qu'on a une pièce en face de nous. Là, on est vraiment dans un univers dans lequel on se laisse happer pendant 1h10. Et après, on va ressortir lentement.
Oui, donc c'est un point de rencontre, si on peut dire. Enfin, un endroit où des gens se rencontrent pour vivre, une expérience peut-être pas jolie, mais ensemble, pour partager quelque chose durant 1h10, comme vous dites. Dans une ambiance bien particulière, avec du texte, mais aussi avec du jeu, avec des choses qui laissent apparaître, puisque vous m'avez dit que le noir, en fait, c'était pour cacher certaines choses, ou au contraire, pour en pointer d'autres. Enfin, il y a tout comme ça, que ça a l'air d'être très, très sinueux, mais que de bien se... Je fais un geste à mes mains, c'est pas très radiophonique, mais bon... de bien se rencontrer, enfin, de bien s'épouser,
le mot expérience est assez
n'est pas
juste.
Si,
moi je pense. Enfin, je sais pas s'il est joli. Je ne sais pas ce que veut dire joli, mais je trouve qu'il est assez juste le mot expérience, puisque la vie, qu'est-ce que c'est si ce n'est expérimenter. Enfin, pour reprendre les mots de Kundera au début de l'insoutenable légèreté de l'être, toute notre vie n'est qu'une première répétition de la vie elle-même. Donc, nous on est aussi, on essaye. Enfin, avec le spectateur, on essaye, on fait une expérience. On expérimente quelque chose ensemble, un soir.
Un soir, comme ça, c'est donc, malgré tout, c'est un temps très court, malgré tout, 1h10. Mais après, dans un endroit bien précis. Et des fois, je me demande si à l'heure actuelle, parce que tout à l'heure, vous parliez de cette consommation comme ça, à tout craint, il faut faire tout vite, il faut répondre toujours partout, être toujours surmené, tout ça. Et est-ce que justement, le théâtre, ça ne reste pas le dernier lieu où justement, il est possible de rencontrer des humains avec leurs qualités, leurs défauts, leurs faiblesses et leurs forces, dans un endroit bien précis, et pour être ensemble et puis justement réfléchir, se poser, comme vous disiez tout à l'heure, et pour vivre quelque chose à des degrés différents, enfin je sais pas.
Le dernier lieu, non, enfin je sais pas, et j'espère pas. Moi, c'est le lieu que je prêche, parce que c'est le lieu que je pratique. Mais skatepark est tout aussi un lieu de rencontre, un banc, un espace public, si en public est encore un espace, malgré toutes les réglementations, lois et caméras qui s'y trouvent.
Ça devient plus compliqué,
Normalement, n'importe quel espace devrait être un espace de rencontre.
Certes.
À partir du moment où on le décide ensemble à plusieurs,
bien sûr.
En commun entre citoyens.
Parce que là, en fait, vous invitez des personnes qui, comme vous disiez tout à l'heure, j'oublie votre nom, pardon, je suis désolée.
Georges.
Voilà, excusez-moi. Ou des personnes qui ne se connaissent pas sont assises côte à côte pour vivre un moment ensemble, pour découvrir une œuvre, une création.
Se taire à plusieurs, c'est ce qu'il y a de plus intime, je pense.
Oui.
ce que tu disais de se réunir... c'est très mal connoté, très mal vu. On dit perdre son temps, mais peut-être que c'est bien de perdre son temps aussi des fois. Il faut perdre du temps pour pouvoir trouver autre chose que du temps,
pour pouvoir justement peut-être mieux le vivre, ce temps en question qui nous est donné, ici sur notre petite planète et tout ça, justement de savoir le perdre. C'est comme quand tout à l'heure vous parliez de vous allonger dans la nature et plus on regarde, plus nous découvrons de petites étoiles. Enfin,
c'est... Comme quand on dit qu'on court après le temps pourtant il ne change pas de vitesse, il va toujours à la même vitesse. Comme quand on dit qu'on n'a plus de temps, ce serait dire qu'on soit déjà arrivé au bout de sa vie.
C'est
quand même drôle toutes ces expressions avec le mot temps.
Alors tant qu'il y a du souffle dans l'être humain, il y a du temps pour faire quelque chose, fabriquer, créer, rencontrer,
rebondir, se construire, quel est le but de tous nos ateliers qu'on fait dans différents milieux, où on travaille avec des enfants, des adultes, des fois dans des...
Un milieu pénitentiaire,
par exemple, un suivi médico-éducatif, avec des gens que la société a rangé à un endroit en fonction
d'un
statut social. Et comment, en fait, on peut toujours rebondir, je pense, tant qu'on est vivant, comme vous dites, tant qu'on a encore un souffle. On peut du coup faire un geste, je pense.
Vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez lire un extrait, c'est ça? Comme je vous vois avec un cahier, donc...
Non, j'ai pas. J'ai un cahier. Ouais, j'ai toujours des cahiers, là. Je sais pas, peut-être finir avec deux ou trois mots d'Aglo qui dit...
D'Agloval, son personnage.
D'Agloval, donc. D'Agloval. Il faut bien que l'on vive en attendant l'inattendu. Et puis il faut agir comme si l'on espérait. On a de ces soirs graves où la vie inutile vous remonte à la gorge et l'on voudrait fermer les yeux. Il est tard. Je suis fatigué.
Merci. Donc, si vous voulez aller découvrir La mort de Tintagile, c'est du 7 au 9 novembre au Théâtre Sorano, donc c'est la semaine prochaine, c'est à
20h.
20h30. Donc c'est le premier spectacle du festival Supernova, et c'est vous qui ouvrez le bal, comme j'ai dit tout à l'heure.
Ouais,
merci cool. Infiniment.
Donc, merci.
Merci à vous.
Écoutons un extrait musical, ça. Merci. Thank you.